Chapitre 14. Kadès, refus d'aller dans le pays de Canaan. Découragement et incrédulité. Et toute l'assemblée éleva sa voix et jeta des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Verset 1. Avons-nous à nous en étonner? Que pouvait-on attendre d'un peuple qui n'avait devant les yeux que des géants, de hautes murailles et des villes imprenables? Ils se voyaient comme des sauterelles en présence de ces difficultés insurmontables et n'avaient aucun sentiment de la puissance divine qui pouvait les faire sortir victorieusement de tout. Tel est le résultat de l'incrédulité. Ils étaient occupés d'eux-mêmes et de leurs difficultés, au lieu d'être occupés de Dieu et de ses ressources. Que pouvaient-ils donc faire, sinon élever leur voix en pleurs et en lamentations? Quel contraste entre ceci et ce que nous lisons au commencement du chapitre 15 de l'Exode. Là, leurs yeux n'étaient fixés que sur l'Éternel. Ils pouvaient donc entonner ce chant de victoire. Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté. Tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont entendu. Ils ont tremblé. L'effroi a saisi les habitants de la Philistie. Alors les chefs d'Édom ont été épouvantés. Le tremblement a saisi les forts de Moab. Tous les habitants de Canaan se sont fondus. La crainte et la frayeur sont tombées sur eux. Versets 13 à 16. Et maintenant, c'est Israël qui tremble et que l'effroi saisit. Quel changement de tableau! Et pourquoi cela? Parce que Dieu, qui occupait leur vue en Exode 15, est entièrement exclu en Nombre 14. Là est toute la différence. Dans l'un des cas, la foi a le dessus, dans l'autre, l'incrédulité. Par la grandeur de ton bras, ils sont devenus muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé, jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu t'es acquis. Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage. Le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô Éternel, le sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel règnera à toujours et à perpétuité. Exode 15, versets 16 à 18. Oh, comme ces accents de triomphe contrastent avec les cris et les lamentations incrédules du chapitre 14 des Nombres. En Exode 15, pas un mot des fils d'Anak, des hautes murailles et des sauterelles. Il n'y est question que de l'Éternel, de sa droite, de son bras puissant, de sa force, de son héritage, de son habitation, de ses actes en faveur de son peuple racheté. S'agit-il des habitants de Canaan? On ne les voit que dans le deuil, frappés de terreur, tremblant et se fondant. En lisant ce chapitre 14, on se demande comment est-il possible que ceux qui ont fait retentir le chant de triomphe au bord de la mer Rouge, soient devenus les pleureurs incrédules de Kadès. Il y a une sérieuse leçon pour nous. Aussi bien qu'Israël, nous sommes portés à regarder aux difficultés qui nous entourent plutôt qu'à celui qui a entrepris de nous les faire traverser et de nous amener sains et saufs dans son royaume éternel. Pourquoi sommes-nous donc quelquefois battus? Pourquoi nous lamentons-nous? Pourquoi faisons-nous entendre autour de nous des paroles de mécontentement et d'impatience plutôt que des chants de louange et de reconnaissance? Simplement parce que nous permettons aux circonstances de nous voiler Dieu. Enfin, demandons-nous, pourquoi nous négligeons de nous établir fermement dans notre position d'homme céleste, de prendre possession de ce qui nous appartient comme chrétiens, de l'héritage spirituel et céleste que Christ nous a acquis et dans lequel il est entré comme notre précurseur? La réponse tient en un seul mot, l'incrédulité. Relativement à Israël et à Canaan, la parole inspirée déclare « Ils n'y purent entrer à cause de l'incrédulité » Hébreux 3, verset 19. De même, à cause de notre incrédulité, nous ne pouvons pas entrer dans notre héritage céleste, nous ne pouvons prendre possession en pratique de notre véritable part comme chrétiens. Nous ne pouvons pas marcher comme un peuple céleste qui n'a aucune place, aucun nom, aucune part sur la terre, qu'ils n'ont rien à faire avec ce monde, si ce n'est d'y passer comme des étrangers et des pèlerins sur les traces de celui qui nous a précédés et qui a pris sa place dans les cieux. Notre foi manquant d'énergie, les choses visibles ont plus de puissance sur nos cœurs que celles qui ne se voient pas. Oh, que le Saint-Esprit fortifie notre foi et donne de l'énergie à nos âmes, afin que nous soyons trouvés vivants de la vie du ciel, à la louange de celui qui nous y a appelés. Marche arrière. Et tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Oh, si nous étions morts ! Et pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays pour y tomber par l'épée, pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie ? Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre : Établissons un chef et retournons en Égypte. Versets 2 à 4. Deux aspects de l'incrédulité se montrent dans l'histoire d'Israël au désert, l'une à Horeb, l'autre à Kadès. À Horeb, ils firent un vœu et dirent : C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Exode 32, verset 4. À Kadès, ils proposent d'établir un chef pour les ramener en Égypte. À Horeb, c'est la superstition de l'incrédulité. À Kadès, c'est l'indépendance volontaire de l'incrédulité. Caleb forme un brillant contraste avec tout cela. Pour lui, il n'était question ni de mort dans le désert, ni de retour en Égypte, mais de l'entrée dans la terre promise, à l'abri du bouclier de l'Éternel. Josué et Caleb, deux fidèles témoins. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant : Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Et toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres. Versets 6 à 10. Pourquoi veut-on les lapider ? Non pour avoir dit des mensonges ou avoir proféré des blasphèmes, mais à cause de leur courageux témoignage à la vérité. Ils avaient été envoyés afin de reconnaître le pays et d'en faire un rapport exact. Ils le font. Et, à cause de cela, toute l'assemblée parle de les lapider. Le peuple n'aimait pas la vérité, pas plus qu'elle n'est aimée maintenant. La vérité n'est jamais populaire. Il n'y a pas de place pour elle dans ce monde, ni dans le cœur humain, tandis que les mensonges et l'erreur, sous toutes leurs formes, sont volontiers reçus. Josué et Caleb, en leur temps, ont expérimenté ce que les vrais témoins de chaque époque ont à attendre. L'opposition et la haine de la plupart de leurs semblables. Il en sera toujours ainsi, jusqu'au glorieux moment où la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que Dieu nous accorde de pouvoir, comme Josué et Caleb, rendre un témoignage clair, inflexible et complet à la vérité de Dieu. Nous avons à maintenir la vérité divine quant à la part céleste et à l'héritage des saints. Il existe toujours une grande tendance à corrompre la vérité, soit à la diminuer, soit à l'abandonner. Caleb et Josué n'étaient pas seulement allés dans le pays, mais ils l'avaient parcouru avec Dieu, ils l'avaient examiné et avaient conclu au point de vue de la foi. Ils savaient que le pays était à eux, selon le don de Dieu, qu'il était digne d'être possédé, et qu'il le posséderait certainement par la puissance de Dieu. Hommes bienheureux, ils vivaient dans la lumière de la présence divine, tandis que l'ensemble du peuple était enveloppé des ténèbres de son incrédulité. Vous trouverez ce contraste même entre les enfants de Dieu. Il y a des personnes dont on ne peut douter qu'elles soient des enfants de Dieu, mais qui, cependant, ne peuvent s'élever à la hauteur de la révélation divine quant à leur position et à leur part comme chrétiens. Elles sont toujours pleines de doutes et de craintes, toujours entourées de brouillard. Ce sont des âmes qui regardent à elles-mêmes, à leurs circonstances ou à leurs difficultés. Elles ne sont jamais sereines et heureuses, ne pouvant jamais montrer cette confiance joyeuse et ce courage qui conviennent aux chrétiens et qui glorifient Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. De Timothée 1, verset 7. Tel est le langage d'un homme de foi, d'un homme vraiment spirituel, bien que son cœur sente le poids des difficultés et des dangers qui l'entourent. L'Esprit de Dieu remplit son âme d'une sainte audace et lui donne de s'élever au-dessus des difficultés. Dieu est prêt à exécuter le jugement. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les fils d'Israël à la tente d'assignation. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple-ci me méprisera-t-il ? Et jusque à quand ne me croira-t-il pas, après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai de peste, et je le détruirai. Et je ferai de toi une nation plus grande et plus forte que lui. » Versets 10 à 12. Quel moment que celui-ci dans l'histoire de Moïse ! Il aurait pu regarder cela comme une occasion unique pour lui. L'ennemi pouvait lui suggérer « C'est le moment favorable pour toi. L'offre t'est faite par l'Éternel lui-même de devenir le chef et le fondateur d'une grande et puissante nation. Ne laisse pas passer cette occasion. » Mais Moïse était trop pénétré de l'Esprit de Christ pour chercher à être quelque chose. Il n'avait pas d'ambition personnelle. Il ne désirait que la gloire de Dieu et le bien de son peuple. Écoutez son admirable réponse. L'intercession de Moïse. Et Moïse dit à l'Éternel, « Mais les Égyptiens en entendront parler, car par ta force tu as fait monter ce peuple du milieu d'eux. Et ils le diront aux habitants de ce pays, qui ont entendu que toi, Éternel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu te faisais voir face à face, et que ta nuée se tenait sur eux, et que tu marchais devant eux dans une colonne de nuée, le jour, et dans une colonne de feu, la nuit. Si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi parleront, disant, « Parce que l'Éternel ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment, il les a tués dans le désert. » Versets 13 à 16. Moïse est entièrement occupé de la gloire de l'Éternel. Il ne peut pas supporter la pensée que l'éclat de cette gloire soit terni aux yeux des nations voisines. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, la gloire de Dieu doit être maintenue. La pensée de se voir grand aux dépens de l'Éternel était tout à fait insupportable au cœur de cet homme de Dieu. Il ne pouvait supporter la pensée que le nom qu'il aimait tant soit blasphémé parmi les nations, ou que l'on puisse dire « l'Éternel n'a pas pu ». Une autre chose encore se trouvait dans le cœur désintéressé de Moïse. Il pensait au peuple. Il l'aimait et s'inquiétait de lui. La gloire de l'Éternel sans doute allait avant tout, mais le bien d'Israël venait immédiatement ensuite. Et maintenant, ajoute-t-il, je te prie, que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as parlé, disant « l'Éternel est lent à la colère et grand en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Versets 17 à 19. L'ordre, le ton et l'esprit de cet appel sont admirables. Il y a d'abord, et par-dessus tout, une grande sollicitude pour la gloire de l'Éternel. Elle doit être protégée de tous les côtés. Mais ensuite, c'est sur le principe même du maintien de la gloire divine que Moïse cherche le pardon pour le peuple. Les deux choses sont liées dans cette intercession. Que la puissance du Seigneur soit magnifiée. Comment ? Par le jugement et la destruction ? Non. Mais par la manifestation du fait que l'Éternel est lent à la colère. Quelle pensée ! La puissance de Dieu en longanimité et en pardon. C'est indiciblement précieux. Moïse était en communion avec le cœur et la pensée de Dieu pour pouvoir parler d'une telle manière. Quel contraste avec Élie lorsque, sur le mont Horeb, il plaide contre Israël. Il est facile de voir lequel de ces deux hommes était le plus en harmonie avec la pensée et l'esprit de Christ. Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté. Ces paroles sont agréables à l'Éternel, qui se plaît à répandre le pardon. Et l'Éternel dit : J'ai pardonné selon ta parole. Et puis il ajoute : Mais aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Versets 20 et 21. La grâce et le gouvernement. Il y a le gouvernement aussi bien que la grâce. Cela ne doit jamais être oublié et l'on ne doit pas confondre ces choses. Tout le livre de Dieu fait voir la distinction qui existe entre la grâce et le gouvernement, et cela apparaît très clairement ici. La grâce pardonnera, mais Dieu revendique sa gloire en jugeant le mal. C'est ce qui ressort de ces terribles paroles. Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté ces 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, s'ils voient le pays que j'avais promis par serment à leur père, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je l'introduirai dans le pays où il est entré, et sa semence le possédera. Or, l'Amalékite et le Cananéen habitent dans la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, vous dirigeant vers la mer Rouge. Versets 22 à 25. Au lieu de se confier en Dieu et d'avancer hardiment vers la terre de la promesse, dans une simple dépendance de son bras tout-puissant, les Israélites l'ont irrité par leur incrédulité et ont méprisé le pays désirable. Alors Dieu les force à retourner en arrière dans ce grand et affreux désert. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : Jusqu'à quand supporterai-je cette méchante assemblée qui murmure contre moi ? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël, qu'ils murmurent contre moi. Dis-leur : Je suis vivant, dit l'Éternel, si je ne vous fais comme vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, selon tout le compte qui a été fait de vous, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi, si vous entrez dans le pays, touchant lequel j'ai levé ma main pour vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Mais vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Et quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert. Et vos fils seront paissants dans le désert 40 ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert, selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, 40 jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités, 40 ans, et vous connaîtrez ce que c'est que je me sois détourné de vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Si je ne fais ceci à toute cette méchante assemblée qui s'est assemblée contre moi, ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Versets 26 à 35. Tel fut donc le résultat de l'incrédulité, et telle fut la conduite gouvernementale de Dieu envers un peuple qui l'avait irrité par ses murmures et par la dureté de son cœur. Il est de la plus haute importance d'observer ici que ce fut l'incrédulité qui tint Israël hors de Canaan dans la circonstance dont il est question maintenant. Le commentaire inspiré en Hébreux 3 enlève tous les doutes à cet égard. Nous voyons qu'ils n'y purent entrer à cause de l'incrédulité. Verset 19. On pourrait peut-être dire que le temps n'était pas encore venu pour l'introduction d'Israël dans la terre de Canaan et que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore venue à son comble. Mais ce n'était pas là le motif pour lequel Israël refusa de traverser le Jourdain. Il ne connaissait rien de l'iniquité des Amoréens. Il n'y pensait absolument pas. Ils auraient dû entrer dans le pays à ce moment-là. Signification typique de l'entrée en Canaan. Comme chrétiens, nous manquons beaucoup à réaliser pratiquement notre position céleste. Nous ne traversons pas le Jourdain en esprit et par la foi. Nous ne prenons pas réellement possession de notre héritage céleste. On croit généralement que le Jourdain est un type de la mort et de la fin de notre vie naturelle dans ce monde. Cela est vrai dans un sens. Mais considérons bien que lorsque les Israélites eurent traversé le Jourdain, ils durent commencer à combattre. Or, nous n'aurons assurément plus aucun combat lorsque nous aurons réellement atteint le ciel. Le Jourdain représente donc autre chose que la fin de notre vie dans ce monde. Nous devons l'envisager comme une grande figure de la mort de Christ. Tout comme la mer Rouge et le sang de l'agneau pascal sont aussi des figures de cette mort, mais sous un autre aspect. Le sang de l'agneau avait mis Israël à l'abri du jugement de Dieu sur l'Égypte. Les eaux de la mer Rouge avaient délivré Israël de l'Égypte elle-même et de toute sa puissance. Mais ils devaient encore traverser le Jourdain. Ils devaient poser la plante de leurs pieds sur la terre de la promesse et y conserver leur place, en dépit de tous les ennemis. Ils devaient combattre pour chaque pouce de terre en Canaan. Que devons-nous donc apprendre du passage du Jourdain et des guerres de Canaan? Jésus est mort. Il a quitté ce monde. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a brisé toutes les chaînes qui nous liaient à ce monde, en sorte que nous sommes morts au monde, tout aussi bien qu'au péché et à la loi. Nous n'avons pas plus à faire avec ce monde, au point de vue de Dieu et de la foi, qu'un mort n'y a à faire. Nous sommes appelés à nous tenir pour morts au monde et pour vivants à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vivons dans la puissance de la vie nouvelle que nous possédons par notre union avec un Christ ressuscité. Nous appartenons au ciel, et c'est en gardant notre position d'homme céleste que nous avons à combattre contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Cette puissance est dans la sphère même qui nous appartient. Elle n'en a pas encore été chassée. Si nous nous contentons de marcher à la manière des hommes, 1 Corinthiens 3, verset 3, de vivre comme ceux qui appartiennent à ce monde, nous nous arrêtons devant le Jourdain. Si nous ne saisissons pas notre part et notre position céleste, nous ne connaîtrons rien de la lutte d'Éphésiens 6, verset 12. C'est en cherchant à vivre comme des hommes du ciel, actuellement sur la terre, que nous comprendrons le sens de cette lutte, dont les guerres d'Israël en Canaan sont l'image. Nous n'aurons pas à combattre lorsque nous arriverons au ciel. Mais si nous désirons vivre d'une vie céleste sur la terre, si nous cherchons à nous comporter comme des gens qui sont morts au monde et qui vivent en celui qui est descendu pour eux dans les eaux du Jourdain, alors certainement le combat est devant nous. Satan fait tous ses efforts pour nous empêcher de vivre dans la puissance de notre vie céleste. C'est là ce qui amène la lutte. Il cherche à nous faire marcher comme ceux qui ont une position terrestre, qui sont citoyens de ce monde et qui se battent pour y maintenir leurs droits. Ainsi, Satan s'efforce de nous amener à donner un démenti pratique à cette vérité chrétienne fondamentale que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, comme elle l'était pour Israël en Canaan, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Telle est la véritable lutte chrétienne. Il ne s'agit pas ici des convoitises de la chair ou des fascinations du monde, quoique sûrement nous ayons à veiller à ces choses, mais il s'agit des artifices du diable. Non pas de sa puissance, qui est à jamais brisée, mais des moyens subtils et des pièges par lesquels il cherche à empêcher les chrétiens de réaliser leur position et leur héritage céleste. Connaissons-nous la pratique de cette lutte? Nous nous contentons facilement de savoir que nous sommes mis à l'abri du jugement par le sang de l'agneau. Alors, nous ne comprenons pas la profonde signification de la mer Rouge et du Jourdain. Nous ne saisissons pas, en pratique, leur importance spirituelle. Nous marchons à la manière des hommes, chose pour laquelle l'apôtre blâmait les Corinthiens. Nous vivons et agissons comme si nous appartenions à ce monde, tandis que l'Écriture enseigne que notre baptême exprime que nous sommes morts au monde, comme Jésus y est mort, et que nous avons été ressuscités ensemble avec lui, par la foi dans l'opération de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Colossiens 2, verset 12. Que le Saint-Esprit amène nos âmes à saisir la réalité de ces choses, qu'il nous présente les fruits précieux du pays céleste qui est à nous en Christ, et qu'il nous fortifie de sa propre force dans l'homme intérieur, de sorte que nous puissions traverser le Jourdain avec confiance et poser hardiment nos pieds dans la Canaan spirituelle. Nous vivons souvent bien au-dessous des privilèges qui nous appartiennent comme chrétiens. Nous permettons aux choses visibles de nous dérober la jouissance de celles qui ne se voient pas. Oh, puissions-nous avoir une foi plus forte pour prendre possession de tout ce que Dieu nous a libéralement donné en Christ. La foi et l'incrédulité. Et les hommes que Moïse avait envoyés pour connaître le pays, et qui revinrent et firent murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent de plaies devant l'Éternel. Mais d'entre les hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, seuls vécurent. Versets 36 à 38. On est étonné en pensant que dans cette immense assemblée de 600 000 hommes, outre les femmes et les enfants, il ne se soit trouvé que deux hommes ayant foi au Dieu vivant. Nous ne parlons naturellement pas de Moïse, mais uniquement de la congrégation. Toute l'assemblée, sauf deux exceptions très remarquables, était gouvernée par un esprit d'incrédulité. Ils ne pouvaient pas croire que Dieu les introduirait dans le pays. Ils pensaient, au contraire, que Dieu les avait amenés dans le désert pour les y faire mourir. Et nous voyons comment ils durent moissonner les fruits de leur incrédulité. Les 10 faux témoins moururent de plaies, et les nombreux milliers qui avaient reçu leur faux témoignage furent obligés de retourner vers le désert pour y errer ça et là, puis pour y mourir et y être enterrés. Josué et Caleb seuls demeurèrent sur le terrain béni de la foi au Dieu vivant, de cette foi qui remplit l'âme de courage et de confiance. De cela, nous pouvons dire qu'ils moissonnèrent selon leur foi. Dieu honore toujours la foi qu'il a produite dans un cœur. C'est son propre don, et ce don, nous pouvons le dire avec respect, il ne peut que le reconnaître où qu'il se trouve. Josué et Caleb purent, par la seule puissance de la foi, résister à un épouvantable courant d'incrédulité. Ils conservèrent leur confiance en Dieu en face de toutes les difficultés. Et Dieu honora leur foi. Alors que les cadavres de leurs frères étaient tombés en poussière dans le désert, eux ont foulé de leurs pieds les collines couvertes de vignobles et les vallées fertiles de la terre promise. Les autres avaient déclaré que Dieu les avait fait sortir d'Égypte pour les laisser mourir dans le désert, et leurs parts furent selon leurs paroles. Josué et Caleb avaient déclaré que Dieu pouvait les introduire dans le pays, et leur part fut aussi selon leurs paroles. Nous avons là un principe très important. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Rappelons-nous ceci. Dieu trouve ses délices en la foi. Il aime être cru, et il honorera toujours ceux qui se confient en lui. Au contraire, l'incrédulité l'afflige. Elle l'irrite, le déshonore et amène les ténèbres et la mort sur l'âme. C'est un grave péché que de douter du Dieu vivant qui ne saurait mentir ou de conserver des doutes lorsqu'il a parlé. Le diable est l'auteur de toutes ces questions où il y a du doute. Il fait tous ses efforts pour ébranler la confiance des croyants. Mais il n'a aucune puissance sur celui qui se confie simplement en Dieu. Ses dards enflammés ne peuvent jamais atteindre celui qui est abrité derrière le bouclier de la foi. Oh, que Dieu nous accorde de vivre d'une vie de confiance enfantine en lui. Cela rend le cœur parfaitement heureux et remplit la bouche de louanges et d'actions de grâce. De son côté, l'incrédulité remplit le cœur de toutes sortes de doutes, nous fait nous replier sur nous-mêmes, obscurcit notre sentier et nous rend misérables. Le cœur de Caleb était plein de confiance, tandis que celui de ses frères était rempli de plaintes et de murmures amers. Confiance en ses propres forces. Et Moïse dit ces choses à tous les fils d'Israël, et le peuple mena très grand deuil. Et ils se levèrent de bon matin et montèrent sur le sommet de la montagne, disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. » Et Moïse dit, Pourquoi transgressez-vous ainsi le commandement de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus devant vos ennemis. Car l'Amalékite et le Cananéen sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Car parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. Toutefois, ils s'obstinèrent à monter sur le sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Et les Amalékites et les Cananéens qui habitaient cette montagne-là descendirent et les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Versets 39 à 45. Quelle contradiction dans le cœur humain! Lorsqu'ils avaient été exhortés à monter avec foi et à posséder le pays, ils avaient reculé et refusé de marcher parce qu'ils ne savaient pas se confier en Dieu. Mais maintenant, au lieu de courber la tête et d'accepter le châtiment de Dieu, ils veulent monter, se confiant en eux-mêmes. Quelle folie de vouloir marcher sans avoir Dieu avec soi. Sans lui, ils ne pouvaient rien faire. Lorsqu'ils auraient pu l'avoir avec eux, ils ont craint les Amalékites, mais maintenant, quoique sans Dieu, ils s'obstinent à affronter ce peuple. Nous voici, nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé. C'était plus facile à dire qu'à faire. Un Israélite sans Dieu ne pouvait pas se mesurer avec un Amalékite. Moïse leur montre les difficultés qu'ils avaient eux-mêmes alléguées pour désobéir. Il leur dit « L'Amalékite et le Cananéen sont là devant vous et vous tomberez par l'épée. » Cela est plein d'instructions. Par leur incrédulité, ils avaient exclu Dieu. Par conséquent, il ne s'agissait plus que d'Israël et des Cananéens. La foi de Josué et de Caleb plaçait la question entre Dieu et les Cananéens, de sorte qu'ils pouvaient dire « Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là, et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Seulement ne vous rebellez pas contre l'Éternel, et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. » C'est là que se trouve le grand secret. La présence de l'Éternel au milieu de son peuple lui garantit la victoire sur tous les ennemis. Mais s'il n'est pas avec eux, ils seront défaits sur toute la ligne. Les 10 espions incrédules avaient déclaré qu'ils étaient comme des sauterelles en présence des géants. Et maintenant, Moïse, les prenant au mot, leur déclare, pour ainsi dire, que des sauterelles ne peuvent pas se mesurer avec des géants. Le peuple s'était enhardi, croyant être quelque chose, alors qu'il n'était rien. Oh, qu'il est misérable d'oser marcher avec sa propre force! Quelle défaite et quelle confusion! Il doit en être ainsi. Le peuple, dans son incrédulité, abandonnait Dieu. Dieu, à son tour, abandonnait le peuple. Il n'avait pas voulu marcher avec Dieu par la foi. Dieu ne voulait pas aller avec eux dans leur incrédulité. Mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Ils allèrent sans Dieu, aussi durent-ils s'enfuir devant leurs ennemis. Soumission aux conséquences de ses fautes. Mais il y a encore une leçon spéciale que nous devrions chercher à apprendre avant de quitter Horma. Dieu veut que nous marchions humblement et patiemment dans le sentier que notre propre chute a rendu nécessaire pour nous. L'incrédulité d'Israël, refusant de monter dans le pays promis, rendit nécessaire, selon les dispensations du gouvernement de Dieu, qu'ils retournent en arrière et qu'ils errent dans le désert pendant 40 ans. C'est ce à quoi ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne peuvent pas courber leur cou sous le joug qui leur est imposé. Combien souvent c'est notre cas. Nous tombons, nous faisons des faux pas, nous entrons par conséquent dans des circonstances difficiles. Et alors, au lieu de nous incliner humblement sous la main de Dieu, pour chercher à marcher avec lui dans l'humilité et la contrition d'esprit, nous devenons rétifs et rebelles. Nous nous en prenons aux circonstances au lieu de nous juger nous-mêmes. Nous cherchons à échapper à ces circonstances au lieu de les accepter comme une conséquence juste et nécessaire de notre propre conduite. Mais l'esprit prétentieux doit tôt ou tard être abaissé. Nous n'aurons jamais Dieu avec nous dans le sentier de l'orgueil et de la prétention. L'Éternel refusa d'accompagner Israël sur la montagne des Amoréens. Cependant, il était prêt à retourner vers eux, dans sa grâce patiente, pour les accompagner dans toutes leurs étapes à travers le désert. Si Israël ne voulait pas entrer en Canaan avec l'Éternel, celui-ci voulait bien retourner dans le désert avec Israël. Quelle grâce ! Malgré toute l'incrédulité, l'ingratitude et les provocations des fils d'Israël, l'Éternel, dans sa grâce condescendante, retourna avec eux pour être leur compagnon de voyage dans le désert pendant 40 années. Si donc le désert montre ce qu'est l'homme, il montre aussi ce qu'est Dieu. Et de plus, il montre ce qu'est la foi, car Josué et Caleb durent retourner avec toute l'assemblée de leurs frères incrédules et rester pendant 40 ans loin de leur héritage, quoiqu'ils aient été eux-mêmes tout prêts à monter dans le pays. On pourrait trouver étrange que deux hommes de foi doivent souffrir à cause de l'incrédulité d'autres personnes. Mais la foi peut attendre patiemment. Et d'ailleurs, comment Josué et Caleb auraient-ils pu se plaindre de cette marche prolongée quand ils voyaient l'Éternel prêt à la partager avec eux ?